C'est d'actu, en direct depuis la 77e édition du Festival de Cannes, une émission présentée par Robin Hulin.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est d'actu, toujours en édition spéciale depuis le Festival de Cannes et sa 77e édition. Au programme aujourd'hui, des surprises. Si nous sommes à Cannes cette semaine, c'est évidemment pour présenter le festival sous tous ses aspects et profiter des symboles les plus importants sur la croisette. Alors quand on vous parle du festival, vous pensez évidemment au tapis rouge et à ses célèbres marches. Eh bien, nous y étions ce jeudi soir. J'ai eu la chance de monter les plus célèbres marches rouges du monde, puisque nous étions à la présentation et la projection du film du grand Francis Coppola, de retour au cinéma avec Megalopolis. C'est une production à la limite de la science-fiction avec Adam Driver et Nathalie Emmanuel aux manettes. On en parle en première partie d'émission. Dans les autres sujets, aujourd'hui, un jour, un focus. Comme à chaque numéro, je vous mets en lumière une des différentes sélections du Festival de Cannes. On a déjà parlé de la quinzaine des cinéastes et de la semaine de la critique. Aujourd'hui, place à un certain regard. Et puis un peu de films et de projections également. Ce matin, la quinzaine des cinéastes proposait Desert of Namibia de Yoko Nakamaka, qui nous retrace le quotidien de Kana, une jeune femme qui semble avoir du mal à trouver un but à sa vie. Pleine de sensibilité, elle n'expose pas ses sentiments, mais ne se laisse pas marcher dessus non plus, dans une société patriarcale et machiste, dépeinte en toile de fond. Et enfin, le Festival de Cannes, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui le couvrent et le connaissent sur le bout des doigts. Adrien Mangano est journaliste animateur pour France Bleu Azur depuis plus de 20 ans, et il couvre même ce festival depuis 4 décennies. Alors en passant par Jean-Louis Trintignant, Benoît Magimel ou même le film Le Grand Bleu, couronné en 88, il nous raconte ses anecdotes et interviews et reportages. C'est un entretien à découvrir en dernière partie d'émission. Voilà pour les sujets de ce nouveau numéro de C'est d'actu, toujours enregistré depuis la croisette à Cannes. Alors on embarque pour le tapis rouge et je vous raconte la grande soirée de ce jeudi soir avec Francis Coppola. Pour démarrer cette émission, avant de se pencher plus en détail sur Megalopolis, la dernière grosse production de l'immense Francis Coppola, de retour au cinéma après presque 15 ans d'absence, revenons d'abord sur cette grande soirée et la montée des marches. Parce que oui, Radio Alpa a eu la chance de fouler le tapis rouge et de monter les marches aux côtés des plus grandes stars. Alors on pourra dire dans 20 ans, ce jeudi 16 mai, effectivement, Monsieur Coppola, Adam Driver était sur le tapis rouge, mais il y avait surtout Radio Alpa qui était à quelques mètres plus loin. Alors on va parler un peu des coulisses de cet événement. Parce que malgré l'aspect flamboyant, les paillettes, le luxe, les tenues de soirée, les sourires partout, il y a des sourires partout, il y a un protocole extrêmement sélectif pour pouvoir participer à une soirée de projection. Déjà, il n'y a qu'une ou deux montées de marches chaque jour, pas plus. Ce sont donc uniquement les films en compétition officielle qui sont mis en avant, pas les autres. Et là, c'était donc Megalopolis qui était à l'honneur. Alors, où sont ces fameuses marches? Eh bien, elles représentent l'entrée du Grand Théâtre Lumière. C'est la plus grande et prestigieuse salle de cinéma du festival, puisqu'évidemment, il y en a des dizaines à Cannes. C'est un peu comme un festival de musique, vous savez. Il y a la tête d'affiche qui se produit le soir sur la grande scène. Et bien là, c'est pareil. Alors, comment y entrer? Sur invitation ou accréditation uniquement. Quand vous arrivez, effectivement, vous voyez une multitude de personnes très bien habillées, souriantes, aimables, parfois bavardes. Et si vous relevez un peu la tête, vous voyez que beaucoup d'entre elles ont des pancartes. Cherche, invitation, SVP, free ticket, please, si vous comprenez l'anglais, bref. Donc ce sont des gens qui veulent évidemment rentrer et se trouver un acolyte pour avoir une place gratuitement. Alors moi j'avais ma place, et malgré les approches fort aimables de beaucoup de curieux bien motivés, j'ai rien donné. J'ai attendu avec patience mes deux acolytes en retard, avec le Graal dans mes mains qui attirait l'attention. Donc ça c'est la première étape pour être sur la liste et espérer avoir une place pour la grande soirée. La deuxième étape obligatoire pour monter les marches, c'est le dress code, bien sûr. Il est très précis pour les hommes, costume noir, chemise blanche, chaussures de ville et évidemment le fameux nœud papillon. Alors dit comme ça, ça peut paraître logique, hein, même assez simple, on se dit voilà, il suffit de s'habiller comme ça. Mais détrompez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui se font recaler, parce que c'est vraiment la règle, et les vigiles sont absolument sans pitié, je l'ai vu de mes propres yeux dans la file d'attente. S'il manque le nœud papillon, que vous n'avez pas réellement de vraies chaussures de ville, ou que votre chemise est légèrement bleu ciel par exemple, etc., eh bien vous pouvez passer votre tour, c'est absolument pas négociable. Et pour les femmes, en revanche, même si l'élégance est demandée également, il n'y a pas de code aussi précis à avoir que pour les hommes, juste une tenue de soirée, comme c'est indiqué. Donc voilà, nœud papillon enfilé devant les vigiles, oui parce qu'on était en retard, il a fallu courir, hein, c'est tout juste si on ne s'est pas habillé dans la rue. On avance, on franchit le portique de sécurité, et on se retrouve sur le côté des marches, avec une entrée différente de celle des stars. Et puis là, d'un coup, une fois qu'on est entré, on se retrouve au milieu de la foule et des stars surtout. Il y avait la chanteuse Zao de Sagazan qui était à un mètre de moi. Il y avait toute l'équipe de Megalopolis, Coppola, Driver et compagnie qui était 10 mètres derrière nous avec les photographes. Alors oui, on a beau être dans le grand bain des stars, on n'est pas des stars et on nous le fait vite ressentir. Malgré les grands sourires des agents de sécurité, on nous demande gentiment d'avancer assez vite. En réalité, on peut rester 4-5 minutes, grand maximum, sur les marches, en étant légèrement sur le côté pour ne pas gêner les stars. Et puis l'autre élément important, c'est qu'aucune photo n'est acceptée. On va peut-être me prendre pour un menteur parce que je n'ai pas pu ramener, j'ai pu ramener que très peu de souvenirs. On a le malheur de sortir notre téléphone pour immortaliser le moment quelques secondes et on a déjà le vigile qui apparaît de nulle part avec le grand sourire, le même grand sourire, hein, qui nous dit qu'on n'a pas le droit. Donc c'est pas grave parce qu'on a quand même réussi à en prendre une. Donc on avance et on entre cette fois-ci dans le grand théâtre Lumière avec les immenses marches blanches en marbre blanc partout dans ce super théâtre. Et devant nous se dresse une salle immense, façon Grand Rex à Paris. Je ne sais pas si vous visualisez ça, mais beaucoup plus grand que le Grand Rex. Il ne faut pas avoir le vertige, hein. je vous préviens, parce que quand on avance, je vous garantis que la pente est raide. Surtout quand on est installé comme nous au tout dernier rang. On est monté tout en haut. Et là, on a devant nous une salle en U qui est immense. Une salle immense que l'écran paraît même trop petit, d'ailleurs, ou pas assez adapté pour se présenter face à tant de sièges. Et donc, à partir de là, la séance va commencer. Coppola et toute l'équipe arrivent en dernier. Un tonnerre d'applaudissements pendant près de 10 minutes pour le réalisateur d'Apocalypse Now, aujourd'hui âgé de 85 ans, d'ailleurs. Et la séance peut démarrer. Voilà, pour finir sur cette expérience assez inoubliable de la montée des marches, plongée au cœur d'un univers bien particulier du cinéma, pas si éloigné que l'image que l'on a tous à la télé, en mémoire, du dress code, des robes de soirée, des paillettes, etc. On est vraiment là-dedans. Et puis voilà, dans quelques instants, on va revenir sur Megalopolis. En détail, je vous ferai un retour sur cette nouvelle œuvre de Coppola, qui est en compétition officielle dans cette 77e édition du Festival de Cannes. Voilà, avant ça, un peu de musique, on écoute Amy Winehouse et Back to Black. A tout de suite. Oh, De retour dans cette nouvelle partie d'émission, toujours depuis Cannes pour une édition spéciale à l'occasion de la 77e édition. En première partie, je vous ai fait monter les marches et son tapis rouge avant de vous plonger au cœur du grand théâtre Lumière pour la projection de Mégalopolis, donc le dernier film de Francis Coppola. Maintenant, donc place à la critique et la chronique sur ce très long métrage de 2h30 que le réalisateur du Parrain présente cette année. Alors, que dire ? Que dire ? Que dire ? Par où commencer ? Déjà que c'est un film qui me laisse assez dubitatif et mitigé. Je préfère le dire d'emblée, dès les premières lignes, on va planter le décor. On va commencer par le positif. Le génie de Coppola est là, il n'y a pas de souci. Il dépeint un univers de science-fiction, mis en parallèle entre la société new-yorkaise et la romantique. Oui, oui, vous verrez, c'est fait de façon très subtile. Ce film maîtrise parfaitement le jeu d'ambiance qui s'alterne entre le sombre avec une ville de New York façon Gotham City un peu et avec le romantisme, les roses, l'ambiance ensoleillée, les lumières. Voilà, il y a des effets spéciaux, des images, un jeu de couleurs qui sont bons, qui sont profondément bien maîtrisés. On voit l'univers de Coppola qui sait s'adapter à toutes les époques que le cinéma lui met à sa disposition finalement. Le jeu des acteurs aussi fonctionne. Comme toujours, Adam Driver est excellent. Nathalie Emmanuel dans le rôle de Julie Cicero crève l'écran par son charisme. Et enfin, la performance de Shia LaBeouf, maléfique, traître, insolent, est une fois de plus particulièrement maîtrisée. Maintenant, parlons de ceux qui passent moins. Bien, c'est tout simplement le scénario et l'histoire de ce film. L'histoire à New York. Une jeune femme, Julie Cicero, la fille du maire de la ville, est partagée entre l'amour qu'elle a pour César, interprété par Adam Driver, qui est un architecte, et donc la loyauté qu'elle a envers son père qu'elle adore. Parce que beaucoup de choses opposent ces deux hommes. L'un, le père, est conservateur, et l'autre, César, est progressiste, il veut rebâtir la ville, ce qu'il est architecte, elle a été détruite après une catastrophe, et il veut la rebâtir avec des moyens très futuristes. Et le problème, il est là, c'est qu'on ne comprend rien. Je ne suis pas le seul à avoir eu ce ressenti, hein. Très loin de là, je ne m'avance pas trop en disant ça, sinon ce serait quand même un peu embêtant si j'étais le seul à l'affirmer comme si c'était réel. Mais il suffit d'ailleurs de regarder la presse aujourd'hui en France, hein, qui est très dubitative et très mitigée au sujet de ce film. Coppola cherche un peu à mettre en avant un univers déjanté, où les dialogues, les scènes d'action et autres éléments vont vite, tout le temps. Pendant 2h30, on est un peu aveuglé de couleurs, de scènes rapides qui s'alternent, de séquences qui changent, qui vont parfois dans tous les sens. C'est un labyrinthe d'informations, mais on finit par s'y perdre, très franchement. On s'y perd, on n'arrive plus à rattraper le cours du film, parce qu'on est presque obligé de le perdre, ce fil à un moment ou à un autre, quoi qu'il arrive. Et malheureusement, on se surprend parfois à regarder sa montre. Parce que oui, comme je le disais en introduction, hein, ce film très long, 2h30. Donc voilà, pour le moment, pas de date de sortie officielle en France, mais il arrivera dans les semaines et les mois qui viennent. Mais ce long métrage, qui est peut-être le dernier du grand Coppola, nous déçoit un peu et surtout nous perd beaucoup dans le scénario. Sur ce, je vous propose de se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On va continuer à parler de cinéma, parler de films à l'affiche et de différentes sélections pendant la quinzaine. Avant ça, on écoute Feel Like Summer de Childish Gambino. A tout de suite sur notre antenne. De retour dans cette nouvelle partie d'émission, nous sommes à la Croisette pour couvrir cette 77e édition du Festival de Cannes. Et comme à chaque jour, un focus. On a parlé de la quinzaine des cinéastes et de la semaine de la critique, place désormais à un certain regard. Un certain regard. Avec cette sélection, on retrouve encore un concept similaire qu'avec la quinzaine des cinéastes et la semaine de la critique, à savoir mettre en lumière des jeunes talents et cinéastes. Donc cette section a été créée par Gilles Jacob en 78, qui était un des directeurs du festival. À l'époque, il rassemble toutes les sélections non compétitives qui avaient été créées par ses prédécesseurs. Il y avait les perspectives du cinéma français, les yeux fertiles ou l'air du temps par exemple. Et cette sélection fait donc concourir des films originaux pour favoriser la découverte de nouveaux talents. Alors le principe est simple, un certain regard présente une vingtaine de films, les œuvres sont récompensées la veille de la cérémonie de clôture, il y a plusieurs prix en même temps, et le prix le plus prestigieux reste donc logiquement le prix Un certain regard, mais il y en a d'autres. Et depuis plus de 25 ans maintenant, cette section a son propre jury professionnel également. Voilà pour ce petit focus. On va continuer tout de suite avec un autre focus, et cette fois sur un film qu'on a eu la chance de voir ce vendredi. Aujourd'hui, c'est la quinzaine des cinéastes qui est mise à l'honneur avec le film Desert of Namibia, un film japonais réalisé par Yoko Nakamaka. Alors, on suit le quotidien de Kana au Japon, une jeune femme, la vingtaine. Qui est-elle ? C'est une fille marginale, rebelle, nonchalante, en fin de compte assez perdue dans sa vie comme dans sa tête. Souffre-t-elle de troubles dépressifs ou est-elle bipolaire ? Le film entretient le flou, elle-même ne le sait pas d'ailleurs. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est très attachante. Parce que bien qu'incapable d'exprimer ses sentiments, autre que dans la colère ou la frustration, Kana est une femme très sensible. Elle passe ses journées à flâner, ne semble pas réussir à trouver de passion ni de centre d'intérêt, à part quelques vidéos d'animaux sauvages sur Internet. Son seul métier l'ennuie, elle est esthéticienne, mais elle finit par se faire virer. Elle est remarquablement bien interprétée par Yumi Kawai. Les plans fixes sur son regard sont particulièrement touchants. C'est un film proche du contemplatif qui nous accroche dès le départ par ses plans fixes, cadrés, colorés, mais souvent et toujours très sobres. Ce film, proche du contemplatif, nous accroche dès le départ par ses plans fixes, cadrés, colorés, mais sobres, qui nous plongent dans l'architecture et la société japonaise. Et comme ce film nous plonge dans la société japonaise, Yoko Nakamaka, elle a voulu mettre en avant cette société patriarcale aussi qui entoure Kana. Celle où les hommes sont machistes, lâches, menteurs. Le copain de Kana montre deux visages tout au long de l'histoire. Un visage qui s'assombrit, celle d'un homme menteur qui cache une partie de son passé. Mais Kana n'est pas irréprochable non plus, hein, comme je le disais au début de cette chronique. Elle aussi peut être violente, ingérable, elle ne semble pas toujours contrôler ses émotions. Un seul défaut ressort de ce long métrage, et il est important, c'est que ce film est long, très long. Il dure 2h30, et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film contemplatif, et bien son rythme finit par se tasser et finit par devenir un peu pesant et un peu lent. Et ça s'est ressenti d'ailleurs dans la salle, hein, auprès de mes collègues, journalistes et critiques, ça a pu se voir. Mais c'est vraiment la seule chose négative qu'on peut retenir dans ce film. Parce que Yoko Nakamaka signe une très belle création, avec une Yumi Kawai qui est resplendissante, je me permets de le redire une fois de plus. Voilà pour ce film qui sera là aussi projeté probablement au cinéaste du Mans dans les semaines et les mois qui arrivent. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite et dernière partie de cette émission. On recevra notre invité du jour, Adrien Mangano, journaliste animateur à France Bleu, qui couvre le Festival de Cannes depuis plus de 30 ans. Il va nous raconter des anecdotes et des moments forts qu'il a vécu. Avant ça, je vous laisse avec Let's Blow Up, Filling Up with Dynamite, Emma Steinbecken, dans l'excellent film Ninja Baby, qui est un film norvégien qui est sorti il y a 2 ans. Voilà, tout de suite, sur notre antenne. I'm a sinner. Blow up the smoke so I don't see the shit clearer. Try to stay calm but being me ain't so easy. It's getting late, I'm way too drunk and in my feelings. Oh, all of the things I have done, all that I shouldn't have said. I got these voices in my head. I'm not the only one.
left or right, don't know what I'm doing. Feels like I'm the elephant in the room. I just stay calm, but being me ain't so easy. It's getting late, I'm way too drunk and in my feelings. Oh, all of the things I have done, all that I shouldn't have said. I got these voices in my head.
De retour dans cette dernière partie d'émission, toujours dans C'est d'actu pour une émission spéciale depuis la 77e édition du Festival de Cannes. Et dans cette dernière partie d'émission, il est l'heure de se tourner vers notre invité, Adrien Mangano, journaliste à France Bleu. C'est un entretien enregistré aujourd'hui sur la Croisette. Adrien Mangano, bonjour.
Et bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes animateur sur France Bleu Azur et vous couvrez le Festival de Cannes. Vous présentez différents modules. Ça fait 40 ans que vous couvrez le Festival de Cannes puisque vous avez travaillé pour d'autres radios. Déjà, pour commencer, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs et nos auditrices, qu'est-ce que vous présentez concrètement pendant cette quinzaine ?
Alors pendant la quinzaine, j'ai ce qu'on appelle le journal du festival qui est diffusé le matin en direct, aussi bien sur France Bleu que sur France 3 puisque maintenant on est liés, on est mariés. Et ensuite, il y a de la rediffusion. Ça, c'est un premier rendez-vous. Après, j'en ai trois autres. J'en ai un autre en milieu d'après-midi, à 15h, où je me retrouve avec un autre invité, avec un autre angle. Et puis ensuite, à 18h, pour la montée des marches. Tous les jours, montée des marches en direct. Et il faut être physionomiste, il faut reconnaître les gens quand même qui montent les marches, parce qu'on n'a pas toujours la liste de ceux qui sont invités dans la soirée.
Voilà, justement, ces intervenants, donc, vous portez essentiellement sur les têtes d'affiche, les acteurs, les célébrités, etc.
Ah non, pas forcément. Moi, j'ai fait les projectionnistes également. Il y en a un peu moins. Il en reste encore qui travaillent avec de la pellicule. Je fais aussi les personnes qui s'occupent de mettre en place les salles, dont une nouvelle salle qui a été créée ici. C'est la salle Bazin. Elle s'appelait la salle Bazin. Et elle s'appellera maintenant, c'est Louis, non pas Louis Lumière, c'est Jean Mineur. Elle s'appelle Jean Mineur, ils ont mis des fauteuils rouges en velours, c'est magnifique, c'est sublime.
Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière le Festival de Cannes sous tous ses aspects, pas seulement les célébrités, mais aussi les métiers des coulisses.
Exactement, tous ceux qui travaillent aussi bien dans l'ombre qu'en plein dans la lumière pour ce festival, effectivement. Ouais.
Cette année, vous avez eu l'occasion de rencontrer des acteurs, notamment qui sont présents dans cette sélection, acteurs ou réalisateurs ?
Oui, bien sûr, ouais. On a Agathe Ridinger, son premier film s'appelle Diamant Brut. Ça a été tourné d'ailleurs dans cette région, à Fréjus, pour la précision, où elle met en avant les victimes de la télé-réalité. Voilà comment on les oblige à faire certaines choses pour faire du buzz et finalement quand elles ressortent de l'aventure, elles n'ont pas gagné grand-chose, sauf celles qui ont su tirer profit et être un peu plus, comment dire, dégourdi.
Comment est-ce que le travail en amont se fait, justement, pour préparer des interviews, mais surtout pour entrer en contact avec les différents intervenants pendant cette quinzaine ?
Alors, c'est toujours le même principe, parce que le festival est toujours très très bien organisé. Vous faites une demande d'accréditation. À partir du moment où vous êtes accrédité, on vous donne un code. Ce code vous permet d'avoir accès à une liste d'attachés de presse. Vous envoyez des mails dans un premier temps. Il y a beaucoup de mails. J'en ai envoyé 60, 65, je crois. Voilà, certains réagissent de suite, d'autres ne réagissent pas parce qu'ils sont en train de faire leur planning, parce qu'il y a des priorités. Il y a CNN, il y a TF1, il y a Canal+. Donc, il y a un ordre. Ensuite, vous arrivez, vous, France Bleu, les radios, France Inter, France Info. Et une fois que ça est fait, quand vous arrivez sur la dernière semaine, vous relancez encore une fois. Et là, vous pouvez les appeler parce qu'ils vous ont laissé leur numéro de portable que vous leur avez demandé. Et là, vous voyez où est-ce qu'il y a des disponibilités.
Le Festival de Cannes, c'est un travail, quand on travaille dans la presse et les médias, d'improvisation. On ne sait pas forcément ce qu'il se passera demain ou après-demain à chaque fois.
C'est au jour le jour. C'est au jour le jour parce que moi, je le ressens comme ça. En tout cas, on rentre dans une bulle. À partir du premier jour, même le jour un peu avant, là, jusqu'à la fin, on est sur la planète cinéma. C'est-à-dire qu'on est un petit peu coupé du reste du monde. On se lève le matin, on l'a lu, on a étudié les films qu'on va voir. Ensuite, on voit le film. Une fois le film terminé, on pose sur le papier les questions qu'on s'est posées. Tout dépend si on a un réalisateur ou un comédien, une comédienne. Ensuite, on va chercher la bande-annonce, on prend des extraits de films qui vont nous servir. Ensuite, il y a la rencontre avec les comédiens, une interview qui dure à peu près entre 10 et 15 minutes. Ensuite, on ramène l'interview en studio, on fait le montage adéquat, on utilise les bandes originales qu'on avait préparées le matin. En fait, c'est tout ça. Et pendant 15 jours, c'est ça, tous les jours. Il peut y avoir à peu près 4 films dans la même journée, 4 séries d'interviews. Quand le festival se termine, au dernier jour, on est toujours un peu nostalgique. Et quand on regarde un peu dans le rétroviseur, et on se dit, mon Dieu, il s'est passé quelque chose, quoi. Et tout d'un coup, on redescend sur Terre.
Justement, quand on prépare une interview, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en avant, de prendre en compte, particulièrement sur un film, quand on reçoit un acteur ou un réalisateur? Comment est-ce qu'on s'y prend?
J'aime beaucoup avoir quelques questions du domaine du privé. Attention, pas rentrer dans la vie, on n'est pas là pour faire du people, mais savoir comment ces comédiens ont épousé cette profession, s'il y avait déjà des signes dans leur enfance, si on pouvait imaginer qu'ils feraient ce métier artistique. Avant tout la promo, parce qu'ils sont là pour ça. Vous posez vos questions promo, il peut y en avoir 5, 6, 7, 8, tout dépend du temps qui vous reste, et à la fin vous posez les questions, celles qui me paraissent essentielles, celles qui sont intemporelles, qu'on peut écouter à n'importe quel moment. Qui me dit, ben voilà, moi la première fois que je suis venu à Cannes, j'ai vécu ça, ici j'avais pas d'argent, j'allais dormir sur la plage ou j'allais dormir sur le bateau d'un copain. Et c'est ça qui est très intéressant.
Et alors qu'est-ce que la radio permet et elle apporte selon vous, à la différence d'autres médias, d'autres formes d'expression?
Je pense que tous les médias, que ce soit la presse écrite ou même la télévision, c'est important. Hein. Et aujourd'hui, il y a une autre forme de médias, ce sont les réseaux sociaux. Il y a par exemple des influenceurs qui ne sont pas journalistes, qui n'ont pas de carte de presse, mais quelquefois ils arrivent à rentrer où nous, on ne rentre plus. Parce qu'aujourd'hui, on fait plus attention aux images qu'un reportage qui est, je veux dire, abouti. Mais la radio, ça fait toujours rêver, c'est toujours là.
Surtout quand on parle de cinéma, on essaye d'imager ça. C'est ça le jeu pour l'auditeur, d'essayer de mettre de l'image à l'oreille?
Complètement. Donc on parle avec la comédienne ou la réalisatrice, on essaye de mettre avec les mots des images dans la tête des gens, comme on pourrait le faire pour un match de foot. C'est tout à fait la même chose. Quand on commente un match, les gens qui n'ont pas la télévision, il faut leur dire, il porte tel maillot, c'est lui qui joue, c'est lui qui est en avant. Et le type, il construit son match dans la tête.
Donc ça fait une vingtaine d'années que vous êtes à France Bleu, ça fait une quarantaine d'années que vous couvrez le Festival de Cannes.
Comment... Un peu moins. Moi, ça fait 20 ans que je suis à France Bleu. J'ai passé 20 ans également à Radio Monte Carlo. Mais mon premier festival, il est en 92. Je me rappellerai toujours, en bas des marches, cette affiche de Basic Instinct avec Sharon Stone et Michael Douglas. C'est mon premier.
Donc 32 ans, alors un petit peu moins. Donc 32 ans, c'est quand même 3 décennies, c'est quand même énorme. Bientôt 4. Comment est-ce que vous êtes arrivé au Festival de Cannes, si on peut revenir au début? Est-ce que ça naît d'une passion du cinéma ou est-ce que, à la différence, c'est votre métier qui vous a amené là et la passion s'est développée ensuite?
Moi, la passion, je l'avais déjà pour le cinéma et pour la musique d'ailleurs. Mais quand on rentre sur une radio comme RMC, ils vous envoient en mission. Ils disent, tiens, Adrien, cette année, tu feras le Festival de Cannes. Ils auraient pu aussi bien m'envoyer sur le Jazz à Journée Pain ou sur le Nice Jazz Festival. Et c'est comme ça. Et donc, au début, on ne sait pas comment ça marche, on n'a pas les codes, on apprend au fur et à mesure d'une année sur l'autre. Ensuite, on retrouve les attachés de presse qu'on a rencontrés l'année d'avant. Et au fur et à mesure, ils écoutent vos interviews, ils savent ce que vous faites, ils vous font confiance, ils vous rappellent. Et lorsque vous leur demandez quelque chose, ils l'acceptent. Et surtout, une règle en or, jamais c'est la mienne en tout cas, hein. Je ne dis pas que ça doit être la règle de tout le monde, c'est lorsque vous interrogez quelqu'un, jamais à penser à faire des questions pièges en disant « Ah oui, je l'ai bien eu sur ce coup-là », il s'en rappelle. Et la prochaine fois que vous demandez une interview, vous ne l'aurez pas.
Et alors, quel est votre moment le plus marquant, finalement, en plus de 30 ans à Cannes, même si, évidemment, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, mais est-ce qu'il y a peut-être 1, 2, 3, 4 moments qui vous ont particulièrement marqué sur le tapis rouge ou même ailleurs pendant la quinzaine?
Alors, j'en ai un, 88, Montée des marches du Grand Bleu, le film de Luc Besson. Toute l'équipe s'était mis des costards bleus électriques, alors qu'il y a un protocole, simplement... C'est la chemise blanche et c'est le smoking et le papillon. Déjà, c'était très mal accepté au départ quand ils ont monté les marches comme ça. Et puis le film a été sifflé, mais alors sifflé. Les critiques ont coulé, si je puis dire, puisque c'est le Grand Bleu, le film. Sauf que c'est le public qui a fait la différence. Quand le film est sorti dans les salles, ils en ont fait un film culte. Ça, je me rappellerai toujours.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. On a un décalage entre Cannes, entre comment on reçoit un film, on peut être sifflé. On avait Pulp Fiction, il me semble, avec Tarantino qui avait été sifflé aussi. Et le public qui ensuite apporte une ambiance différente, c'est le public qui impose le rythme. Là où à Cannes, c'est peut-être une bulle qui est différente. On pense que le film va se planter et en fait, le film cartonne.
C'est exactement ça. Mais de toute façon, c'est le public qui a raison. Voilà. Si le film y cartonne, ça va rapporter de l'argent. Le réalisateur va pouvoir faire d'autres films. Et c'est ça, finalement. Parce qu'ici, on est sur la planète cinéma, je vous le disais. Mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer en dehors lorsque le festival du film va lâcher ses films dans les grandes salles.
Alors, il y a eu des moments marquants. Est-ce qu'il y a eu des rencontres également marquantes, des interviews marquantes avec des personnalités du cinéma?
J'en ai beaucoup. Benoît Magimel, c'était un régal. Il y a des moments d'émotion. Quelquefois, on part sur des souvenirs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des larmes, quelquefois. Et quand l'interview se termine comme ça, ce sont des larmes de joie. On se dit, là, Jean-Louis Trintignant, avec sa fille. Voilà. Tout le monde, toutes les radios, toutes les télévisions lui posaient la question « Comment ça s'est passé? Votre fille, vous l'avez perdue ?» Racontez le jour-là, il ne voulait pas le raconter. Et j'ai rencontré Trintignant et je ne lui ai parlé que de la promo. À aucun moment, je lui ai parlé de sa fille. Et quand j'ai terminé l'interview, il m'a dit « Je vous remercie de ne pas m'avoir posé la question. Et pour cela, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. » Et il me raconte, à partir du moment où il a appris que sa fille était sur la fin de ses jours, et là, il y a eu des larmes de sa part et moi aussi. Et quand j'ai quitté le lieu de l'interview, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette interview? Je vais la diffuser. Mais après tout, s'il a voulu m'en parler, c'est parce qu'il voulait que je la diffuse. Et je l'ai passée.
Ah ouais, c'est particulièrement fort et émouvant comme moment. Justement, est-ce que le Festival de Cannes et son traitement médiatique a évolué depuis 30 ans, selon vous, dans un sens comme dans l'autre?
Oui, il a évolué. Maintenant, évidemment, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée des plateformes, c'est une autre façon de consommer le cinéma. Il y en a qui se contentent de le regarder sur un petit téléphone, et c'est dommage... Et je pense que le cinéma doit être vu dans une grande salle, je pense. Puis il y a une autre façon aussi de faire l'info. Vous voyez, maintenant, il suffit pour certains de venir avec un téléphone, de prendre quelques images sur un tapis. Vous voyez, je suis avec Tom Cruise et puis ça s'arrête là. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a appris du produit? Qu'est-ce qu'on a appris du film? Rien.
Beaucoup de gens nous disent que c'est un peu une vitrine parfois, le Festival de Cannes, qu'à l'année, ça n'est pas du tout ça, qu'il y a des difficultés qu'on ne voit pas forcément, que les commerçants souffrent, etc. Vous êtes de cet avis que les paillettes, le tapis rouge, c'est le temps d'une quinzaine ou il y a aussi d'autres aspects qu'on peut glorifier à Cannes?
Eh bien, ça fait manger des gens. C'est très important. Il faut savoir une chose, c'est que le festival du film n'existerait pas s'il n'y avait pas le marché du film. C'est le marché du film qui fait vivre le festival. Voilà, c'est tout. Alors c'est vrai que les Cannois se disent on est chez nous et on ne peut pas y accéder. Mais il y a quand même des associations très importantes. Il y a notamment Cannes Cinéma, Cannes Cinéphile, qui est dirigée par Aurélie Ferrier, qui elle permet aux Cannois et tous les Azuréens qui sont là de voir les films du festival dans d'autres salles de cinéma que dans le Palais des Festivals. Ça existe.
Alors parlons un petit peu de l'actualité, est-ce que vous avez des films coup de cœur cette année, sur cette quinzaine, qui vous ont particulièrement marqué, même si elle démarre encore, il reste une bonne semaine?
Ah, j'ai vu de belles choses, j'ai vu en avant-première le Comte de Monte Cristo, 3h30 de film avec Pierre Niney, très belle image, très belle photographie. J'ai un coup de cœur aussi pour un film qui s'appelle Diamant Brut, on en a parlé tout à l'heure. Et puis un autre film qui est à la quinzaine, c'est le film de Sophie Figuière, j'espère que je ne me trompe pas, oui c'est elle, qui a écrit un scénario, qui a commencé à tourner avec Agnès Jaoui et qui malheureusement est décédée avant la fin du film. Elle a demandé à ses enfants, ses deux enfants, de prendre le relais, de prendre le flambeau pour terminer le film. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce film se retrouve à Cannes et j'imagine l'émotion des enfants. Et puis Agnès Jaoui qui a tourné, en plus il y a des scènes qui sont tournées dans la maison de Sophie.
Adrien Mangano, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Mais un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, la porte est ouverte.
Et à très bientôt sur notre antenne. « C'est la fin de cette émission, c'était le 3e numéro depuis le Festival de Cannes pour la 77e édition. Merci de nous avoir écoutés. C'est un programme que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve, nous, ce samedi, même lieu, même heure. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.